Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour. Alors, What a Trip, le grand festival international du film de voyage et d'aventure, commence aujourd'hui. Et c'est sa 7e édition. Il va dérouler sa compétition de films autour de ses valeurs, encourager la culture du voyage en créant du lien social avec les territoires, respecter les cultures des autres, environnement, religion, etc., s'appuyer sur la solidarité et l'humain. En fait, c'est un festival engagé et ancré sur son territoire, nous dit-on. Et pour en juger, vous avez rendez-vous du 26 septembre au 1er octobre au Pérou et à la salle Rabelais principalement. Des films, bien sûr, dont 13 en compétition sur les 26 présentés et les 300 reçus. Des rencontres littéraires, un soutien aux migrants avec SOS Méditerranée, des actions destinées aux scolaires et aussi des expositions. À la fin du mois, d'ailleurs, JR, celui qui installe des grands monuments, enfin des grandes photos monumentales, il va nous réserver donc une œuvre. Mais aujourd'hui, nous avons choisi de donner la parole à Frédéric Georgens, le photographe des zones oubliées, qui a accroché ses clichés sur les oubliés de Tchernobyl au Gazette Café. Bonjour Frédéric.
Bonjour Dominique.
Avant de vous donner la parole, j'aimerais faire un petit rappel quand même sur l'accident de Tchernobyl qui s'est déroulé il y a 35 ans maintenant, le 26 avril 1986, à 1h23. Nous sommes à une centaine de kilomètres au nord de Kiev. Le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire fait l'objet d'un test de sécurité.
Pripyat, en Ukraine. La ville fantôme la plus célèbre du monde. De l'ancienne cité des années 70, tout est resté. Les bâtiments, les routes, les aires de jeu, la fameuse grande roue, tout sauf les hommes. Invisible mais mortel, un poison se diffuse ici depuis des décennies. Tapi dans la terre et les végétaux, il a tout contaminé. Son origine remonte au pire accident nucléaire civil de l'histoire, dont le nom continue de résonner dans toutes les têtes. Tchernobyl.
C'est un véritable cratère au milieu de la centrale.
Mais que s'est-il réellement passé la nuit du 26 avril 1986 dans les murs de Tchernobyl ? À précisément 1h23 et 44 secondes, la situation devient totalement hors de contrôle.
Ce qu'il se passe, c'est qu'il y a une augmentation de la pression terrible.
Un déploiement d'énergie tel que plus rien ne peut tenir.
Il est trop tard. La réaction nucléaire n'est plus maîtrisable.
D'un point de vue technique, on ne peut plus rien faire.
La dalle du réacteur qui pèse 2000 tonnes, s'est trouvé propulsé en l'air pour monter d'une dizaine de mètres.
Immédiatement, sont relâchées énormément de particules et de gaz.
À ciel ouvert, en fait, tous les radionucléides, toute la réaction en chaîne, en fait, sort.
C'est l'uranium et le plutonium qui se trouvent dans le cœur et tous les produits de fission dus au fonctionnement de la centrale qui se trouve libéré d'un seul coup.
Malgré la violence de la déflagration, un seul employé meurt à cet instant. Le vrai danger est ailleurs. Les matières hautement radioactives jonchent les abords de la centrale à des centaines de mètres à la ronde. Mais plus terrifiant encore, une colonne de fumée chargée de gaz et de particules en fusion s'élève à plus de 1000 mètres au-dessus du bâtiment éventré. En pleine nuit à Pripyat, personne n'a entendu l'explosion. Personne n'imagine que la plus grave catastrophe du nucléaire civil ne fait que commencer.
Face à un réacteur totalement éventré, avec des milliers de tonnes de béton, qu'est-ce que vous pouvez faire ?
10 minutes après l'accident, les 30 pompiers de la caserne de Tchernobyl arrivent sur les lieux. Au beau milieu de la nuit, ils ne réalisent pas l'étendue des dégâts et ne distinguent de la centrale que les flammes à éteindre de toute urgence. À aucun moment, ils ne se doutent que le vrai danger n'est pas l'incendie.
Les pompiers, quand ils arrivent sur place, ils n'ont aucune protection, ils pensent se rendre sur un incendie.
Un pompier, il voit un feu. Ils voient un feu, quoi. Mais dans le feu et les poussières, il y a énormément de poussières radioactives. Et donc, ils sont soumis à une très, très forte dose de radioactivité.
Après 3 heures d'intervention, les pompiers parviennent à maîtriser le feu de la centrale. Pourtant, sans qu'ils ne s'en rendent compte, leur corps est gravement touché.
Leur corps est transpercé de matières radioactives qui sont invisibles, inodores, indolores.
La radioactivité, c'est des champs électromagnétiques, les mêmes ondes que nos téléphones portables, nos radios, mais avec des énergies beaucoup, beaucoup plus importantes. Et c'est en particulier ce rayonnement-là qui est destructeur.
Toute radiation est dangereuse quand elle est excessive.
Durant cette nuit tragique, les pompiers de Tchernobyl reçoivent jusqu'à 3 fois la dose, à partir de laquelle on estime la mort inéluctable.
3 décennies plus tard, le bilan humain de la catastrophe reste impossible à dresser et fait toujours l'objet d'un grand débat scientifique. En 2006, l'OMS avance le chiffre de 4000 morts. Greenpeace, de 200 000 si l'on comptabilise les victimes qui meurent encore aujourd'hui des radiations. Les nouvelles de Moscou, 250 décès. Et l'ONU s'en tient aux 31 martyrs des premiers jours.
Vous savez, Tchernobyl, hélas, ne s'effacera jamais. Et je pense que la tâche des générations futures sera de trouver les moyens de nettoyer toute la zone irradiée.
Le plutonium, ça a une durée de vie, demi-vie, de 23 000 ans. Ça veut dire que dans 23 000 ans, le plutonium perdra la moitié de sa radioactivité. Donc, vous avez déjà vu quelque chose, je ne sais pas, une société humaine qui a tenu 23 000 ans ?
Souvent, on nous pose la question, mais finalement, l'accident de Tchernobyl, ça a provoqué combien de morts ? La difficulté, c'est qu'il n'y a pas de différence entre un cancer qui est dû à la radioactivité et un cancer qui n'est pas dû à la radioactivité. En tout cas, aujourd'hui, on ne sait pas faire cette différence.
Aujourd'hui encore, personne ne peut déterminer avec précision le nombre de victimes de Tchernobyl. Seule certitude, la majeure partie de l'ex-URSS aurait été touchée, soit 290 millions de personnes. Quant aux liquidateurs, sur 600 000, seuls 47 sont officiellement morts d'irradiation aiguë. Leur sacrifice fait qu'aujourd'hui, Tchernobyl n'est pas seulement synonyme de catastrophe, mais aussi du courage qu'il a fallu pour sauver notre planète.
Alors, Frédéric, j'ai choisi de nous raconter en images un peu cette histoire de Tchernobyl, en tout cas aujourd'hui, et l'histoire de 4 femmes que vous avez longuement rencontrées, qui ont décidé, malgré les pressions diverses et variées, de vivre dans leur ancien village, dans la zone 3 de l'accident de Tchernobyl, où 2000 hommes et femmes ont choisi de revenir vivre. Alors, il en reste aujourd'hui 150 et l'on y meurt de vieillesse. Alors, pourquoi avez-vous fait ce choix de nous parler de ces oubliés de Tchernobyl ?
Alors, tout simplement, au départ, j'étais attiré par Tchernobyl, comme tout le monde, par rapport à la photo urbex. Et au fil des visites que j'ai faites dans cette zone...
La photo urbex, c'est quoi ?
Oui, la photo urbex sont des lieux abandonnés dans le monde. J'en ai fait beaucoup, j'ai fait pendant plus de 20 ans de l'urbex, donc en France, en Belgique, au Japon et à Tchernobyl. Et... En fin de compte, grâce à un ami qui était mon guide, qui était Micha, j'ai approché ces femmes-là, et notamment d'autres familles, qui sont plutôt des monofamilles, que ce soit des hommes ou des femmes. Pourquoi monofamille ? Tout simplement parce que leurs conjoints sont morts, mais pas à cause de la catastrophe, morts de vieillesse, tout simplement. Et on a lié un petit peu d'amitié avec Micha et surtout avec ses familles. Et je lui ai expliqué mon projet avec une traductrice aussi. Je leur ai expliqué, voilà, moi j'aimerais bien faire un livre sur leur histoire. Parce que, en fin de compte, on parle de plein de choses de Tchernobyl, de Pripyat essentiellement. On montre plein de photos. Moi, je suis photographe. Du moins, j'étais photographe parce que j'arrête mon métier depuis longtemps, là, de photographe. Mais je suis quand même photographe dans l'âme et je continue à faire la photo. Et je lui ai dit, ben voilà, il faudrait qu'on raconte leur histoire parce que ça, c'est quelque chose de super intéressant. Donc, on est allé les voir. La traductrice Yulia leur a expliqué et leur a dit, voilà, ils voudraient faire quelque chose sur vous et expliquer comment est votre vie et comment vous avez pu résister ici, parce que je ne connaissais pas.
Est-ce qu'elles ont accueilli votre démarche avec bienveillance ou bien est-ce que finalement on est quand même dans une zone assez militarisée et, est-ce qu'elles avaient peur de parler, voilà.
Non, elles n'avaient pas du tout peur de parler, elles étaient contentes, même elles me prenaient un petit peu pour un fou de vouloir raconter ça, mais il n'y a pas eu de problème du tout sur les témoignages que j'ai réussi à récolter. Donc au final, on a même fait plus parce qu'on a réussi à contacter, grâce à mes deux amis ukrainiens, différentes personnes en Ukraine, dont un responsable des pompiers, qu'on a eu une interview aussi. On devait avoir un des directeurs de la centrale nucléaire et manque de chance, il a eu un AVC et il n'a pas pu accomplir cette interview. Mais on a fait pas mal d'interviews de différentes personnes.
Alors, vous avez rencontré des pompiers, donc on vient d'en parler là.
Alors, on vient d'en
parler. Ils étaient vraiment sur le front, quoi, et sans savoir exactement ce qu'ils étaient en train de faire.
Alors, c'est ça. Ce responsable des pompiers nous a un petit peu glacés dans le sens où il nous a vraiment raconté parce qu'il était dans les premiers régiments à être sur la catastrophe. Et il avait compris. Il avait compris, il m'a expliqué qu'il avait compris et qu'à un moment, il a voulu sauver des vies. Et il a sauvé les vies de certains de ses pompiers parce qu'il y en avait d'autres, ils étaient déjà partis à l'hôpital. Et il nous a expliqué, ben voilà, j'ai désobéi aux ordres en faisant croire que j'avais obéi aux ordres parce qu'à l'époque, c'était vraiment l'ex-URSS. On ne pouvait pas dire non, on sacrifiait des gens ben, comme ils le sacrifient actuellement avec la guerre. Lui, il a fait croire à ses responsables que ces hommes étaient allés combattre le feu, invisible, entre guillemets, même, parce qu'il n'y avait plus de feu. Et il les a mis de côté dans des zones qui étaient un petit peu moins atteintes.
Et lui-même, comment il a survécu alors ?
Alors lui, il a survécu, puisque je l'ai rencontré il y a 2 ans, 3 ans. 3 ans maintenant, puisque ça remonte, oui, même un peu plus. Il a survécu, il a eu des médailles, il m'a même fait un cadeau, un livre, tout en russe, que je ne sais pas lire, mais ce n'est pas grave. Lui, il a survécu, il a été un peu malade, mais il n'a pas eu de cancer. Voilà. Il a eu quelques hommes qui sont morts, voilà, et d'autres qui sont encore en vie. Voilà.
Et on sait pas grand-chose, finalement. Alors, les 4 femmes que vous avez rencontrées et dont vous nous brossez un portrait photographique ne vivent pas dans la zone interdite, mais dans une zone déconseillée.
Voilà. Alors,
où les habitants, finalement, sont partis.
C'est ça. Il y a 3 zones qui sont... Alors, il y a la première zone interdite, qui est Pripyat, et à peu près 10 kilomètres. D'accord, de Pripyat, avec la centrale nucléaire. Ensuite, il y a une seconde zone qui a la centrale, n'est pas là, mais ça s'appelle Tchernobyl, la ville de Tchernobyl, parce que la centrale est dans la zone de Pripyat.
Mais c'est là qu'on a déplacé les gens, en grande partie, énormément.
Alors, au départ, ils ont laissé les gens à Pripyat, après ils les ont déplacés un petit peu, et puis après ils ont fait une colonne de bus de plus de 30 km pour les faire partir. Et dans cette zone de Tchernobyl, qui fait à peu près encore 10 à 20 km, qui est à 12 km exactement de l'entrée de la première zone, là, il y a environ entre 3 000 et 4 000 salariés qui vivent seuls pas forcément en famille, et qui ont des rotations de plusieurs jours. Et ils étaient là pour travailler, pour entretenir les forêts, pour travailler dans la centrale, pour travailler sur plein de projets, la surveillance, voilà.
Bon, ce sont ceux aussi qui ont sans doute veillé au sarcophage et à la remise. Enfin, il faut essayer, bien sûr, de cacher, enfin, d'enfouir ce feu qui reste radioactif.
Tout à fait. Alors, eux, ils sont là. Moi, je les ai rencontrés aussi. J'ai eu la chance d'aller aussi dans la centrale. Et donc, en finale, eh ben, on a pu voir toutes ces personnes-là qui travaillent tout le temps. Et après, il y a la troisième zone où là, il y a Anya, Maroussia, Sonia qui vivent là-dedans et Victor. Bon, Victor est décédé maintenant. Je l'ai appris, hein, j'étais plus en Ukraine lorsque, du moins, il y a la guerre, mais j'étais en visite. Et donc, je l'ai appris après. Il y a mon ami Micha qui m'a envoyé un message en me disant Victor est mort.
Alors, tous ceux qui veulent rencontrer Amia, Maroussia ou Sonia doivent aller au Gazette Café et sur vos photos, on voit ces femmes extraordinaires. Elles ont l'air de vivre comme on vivait avant.
Tout à fait, c'est ça qui me plaît. En fin de compte, moi, je suis un peu fatigué de notre société hyper consommatrice, je dirais pas anticapitaliste, mais je suis un peu fatigué de tout ça. Et j'admire cette vie qu'elles ont et je suis attiré de plus en plus vers cette vie. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'elles vous ont appris, en fait ?
Alors, elles m'ont appris plein de choses. Bon, déjà, leur vie, ça, c'est une vie extraordinaire qu'elles ont eue, très difficile à des moments, puisque les militaires les ont violentées, ont essayé de les tuer, mais comme elles leur ont dit, tuez-nous, hein, de toute façon. Hein. On est là, ici, on est né ici, on ne partira pas tant qu'on est mort dans notre village. Voilà. Donc, il y a eu beaucoup de menaces, essentiellement. Et ensuite, petit à petit, elles ont repris leur vie. Et la vie n'a pas été plus simple, hein, puisqu'elles n'avaient pas d'eau, pas d'électricité. Elles étaient vraiment à l'ancienne, pure, avec des animaux, tout ça.
Alors, en légendant dans votre œuvre, vous dites, on mange, on boit, on y embrasse son chat. Comment vous-même avez-vous fini par accepter le danger et vous êtes-vous apprivoisé finalement ?
Alors, en fin de compte, la première visite que j'ai faite dans la
zone... Vous restiez combien de temps avec elle ?
Alors, je n'avais pas le droit de rester plus de 24 heures. Voilà.
Ah, au début ?
Voilà, je n'avais pas le droit de rester plus de 24 heures. Normalement, on avait convenu que je reste 48 heures, mais c'était un petit peu dans l'illégalité. Et de toute façon, ça a été un peu compliqué parce qu'il y avait des autorisations. Hein. On ne peut pas y aller comme ça. Il fallait demander des autorisations. Donc, c'était Micha qui s'en occupait à chaque fois. Et ensuite, on rentrait dans la zone pour aller les voir. Elles vivent très simplement et c'est très agréable de retrouver cette vie agréable. Elles cultivent elles-mêmes leur petit potager qu'elles partagent entre elles. Elles ont leurs animaux, les poules, les cochons. Et puis quand on va les voir, elles nous servent à manger, à boire. Leur jeu préféré, c'est de me saouler. Mais bon, comme je ne bois pas beaucoup d'alcool, elles n'y arrivaient pas. Et après, on racontait la vie qu'elle passait là-bas. Notamment, Maroussia était une des liquidatrices aussi.
Et vous n'avez pas peur quand elle vous donne à manger, etc., de son potager
Non, je n'ai pas eu peur parce qu'en fin de compte, on avait des compteurs GGR. Et j'y suis allé au moins une dizaine de fois les voir. Et les premières fois, la toute première fois quand je suis allé à Tchernobyl, j'ai eu très peur. Il ne faut pas le cacher, j'ai eu peur. J'avais un compteur GGR toujours avec moi. J'ai ramené des bouteilles d'eau d'ailleurs. J'ai quasiment très peu mangé. Et surtout, je ne me suis pas douché pendant 3 jours. Voilà. On a le droit à rentrer maximum 5 jours dans la zone. Au-delà, on n'a plus le droit. D'accord ? Il faut qu'on ressorte pendant un certain temps. Mais bon, comme moi, j'habitais pas là-bas, j'avais pas le temps de ressortir, de revenir.
Donc vos travaux, enfin votre exposition, vous l'avez faite finalement sur ces 5 jours ?
Ah non. Je l'ai fait sur plusieurs années, on va dire, de visites régulières pour les faire. Non, je n'ai pas fait que sur 5 jours. Ça m'a pris plusieurs années. Et donc, au final, à chaque fois que j'allais en Ukraine, j'essayais d'aller leur rendre visite pour faire en sorte de faire des photos complémentaires, d'avoir des reportages, des interviews. Le but, c'était au départ un intérêt personnel pour en faire ensuite un livre qui était à but caritatif, pas à but financier. J'avoue que je me suis complètement détaché de l'argent. C'est fatigant, ce monde de l'argent. Et en plus, moi, je fonctionne comme à l'ancienne, comme quand j'étais enfant. On fonctionnait beaucoup par l'échange. Et au final, je leur ai dit, ben voilà, on va faire ça. Et moi, je vous échange votre temps contre un livre qui va nous permettre peut-être de gagner de l'argent, mais cet argent, il va vous revenir. Il ne va pas être pour moi, ni pour personne. Il permettra juste pour vous, pour avoir, si vous avez besoin de quelque chose. Alors, elles avaient déjà un réfrigérateur, elles avaient différentes choses, mais elles avaient besoin. Donc, par exemple, quand on allait avec Micha ou Yulia, eh ben, on s'arrêtait au supermarché. On leur ramenait toujours certains produits qu'elles avaient besoin. Donc, ils les contactaient avant par téléphone, parce qu'elles ont un mobile normal, hein, pas un smartphone. Et ils lui disaient, ben, qu'est-ce que tu as envie qu'on te ramène? Alors, elle disait du beurre, du pain, des céréales, etc. Parce que les produits d'aliments de base, elles les avaient plus ou moins. Et ensuite, elles avaient tout ce qui était viande, légumes...
Bon. Alors, on voit d'ailleurs dans votre exposition, c'est un espèce de buffet campagnard, hein, finalement, où on voit leurs énormes cornichons, on voit leurs tomates, enfin, on voit des légumes qui doivent venir de leur potager, je suppose.
Tout à fait, ils viennent de leur potager, comme les pommes de terre et comme le lard du cochon, ils viennent de leur potager. Voilà, et de leur basse-cour et tout.
Alors,
ça.
De les voir en bonne santé, ça vous donnait confiance?
Non, moi, ça me donnait confiance, j'avais pas peur. Honnêtement, de toute façon, comme je me dis, on meurt un jour. Autant que je meurs par plaisir de rencontrer des gens si humains et qui m'ont donné tant de choses à apprendre sur les valeurs de la vie que plutôt mourir pour rien du tout. Voilà.
Alors, parlons quand même maintenant un petit peu de votre œuvre, parce que vous êtes photographe, hein, et donc on retrouve dans certaines images, enfin moi j'ai adoré par exemple un bleu, un violet. Donc vous avez, expliquez-nous un peu maintenant votre travail de photographe, hein, parce que c'est aussi à ce titre que vous êtes exposé.
Alors, oui, on va dire ex-photographe. Maintenant, je suis un photographe amateur. Mais bon, voilà. Oui. Alors, l'œuvre a été axée sur leur vie, à toutes. Et ensuite, bien sûr, en tant que photographe, on a notre petit développement. Avant, on faisait du développement dans le laboratoire, mais maintenant, il est numérique. Voilà, avec des logiciels. Et je me suis retrouvé dans une ambiance ancienne, voilà. Et donc, j'ai voulu donner une couleur à mes photos un petit peu passées, voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai sorti un petit peu un traitement spécifique pour ces photos à l'ancienne, un peu passées, pour trouver une harmonie entre ce que j'ai vécu avec elles et la photographie que je veux montrer.
Mais dites-nous alors, parce que c'est un peu abstrait, là.
Ben,
enfin, moi, j'ai vu les photos, donc je vois très bien ce que vous voulez dire.
Alors, mais elles ont une petite coloration bleutée, tout en gardant la couleur vive, mais avec un aspect un petit peu ancien, old school, comme on pourrait dire, en utilisant des mots anglais, c'est-à-dire passé, comme une photo qui est passée de ses couleurs.
Comme
petit
si
à petit.
C'était une vieille photo.
Voilà,
quoi.
Comme si c'était une vieille photo, tout à fait.
Voilà.
Voilà.
Et alors, donc, mais par contre, vous avez rehaussé certains plis du tissu, certaines...
Oui, j'ai rehaussé certaines photographies pour qu'elles restent contrastées quand même, qu'on voit tout à fait les couleurs et ce que je voulais montrer aussi dans chaque photo.
Alors, bien sûr, j'invite tous nos auditeurs à aller voir votre exposition qui est au Gazette Café jusqu'au 1er octobre. Et quelles autres expériences? Vous nous avez dit, enfin, on vous a appelé le photographe des zones oubliées. Avant cette zone de Tchernobyl, vous étiez allé où déjà?
Alors, je suis allé, j'ai fait, comme je vous ai dit, des lieux abandonnés. J'avais commencé à Paris, quand j'habitais à Paris, avec des amis qui étaient photographes amateurs comme moi. Et on a fait plein de lieux, dans le sens, une usine abandonnée de papier, qui était vers Saint-Quentin, en Yvelines. Ensuite, on a fait un vieux... une sorte de CAF coopérative, mais ce n'est pas une CAF coopérative, un chai vers Rouen. Et petit à petit, on est parti vers la Belgique, parce qu'il y a beaucoup. Donc, j'ai fait une vieille mine, j'ai fait aussi un cinéma, j'ai fait une ancienne usine d'ammoniac.
En fait, donc des lieux où plus personne...
Alors, c'est des lieux où plus personne vive. Mais alors, c'est assez impressionnant parce qu'on rentre dans ces lieux-là et on a l'impression que la vie ne s'est pas arrêtée. Par exemple, dans l'usine d'ammoniac que j'avais fait, qui s'appelait le Safea, on était allé dans la cantine. Et alors, on ne sait pas quelle est la catastrophe qu'il y a eu dans cette usine, mais 15 ans après, il y avait encore les assiettes, la cantine installée, voilà, avec des plats. Bon, alors bien sûr, tout était pourri, il n'y avait plus rien. Mais tout était comme si on avait vécu encore 48 heures avant.
Et ça, vous aimez ?
Et ça, j'aimais. J'aime. Bon, alors maintenant, j'en fais plus parce que c'est plus compliqué, parce que hélas, maintenant, c'est beaucoup plus réglementé. Il y a beaucoup de lieux qui sont saccagés maintenant.
Bien, alors malheureusement, on est obligé de nous quitter et j'invite vraiment, peut-être que vous avez d'autres projets là-bas, vous allez peut-être expliquer des
alors,
choses,
alors,
vous y retournez.
Bon, déjà pour parler du What a Trip, le 1er octobre à 11h, j'ai une conference.
D'accord,
donc, pour parler
au Pérou,
voilà.
D'accord.
Et ensuite, j'aimerais y retourner, mais il y a la guerre en Ukraine, donc je ne sais pas quand est-ce que je pourrais retourner. Et pour le moment, le projet du livre caritatif et en stand-by, mais j'espère continuer à le faire. J'ai des nouvelles de toutes ces femmes, elles sont en bonne santé en attendant.
Voilà, merci à vous Frédéric Georgens et j'invite vraiment à aller voir votre exposition.
Merci.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés. On parle d'apocalypse, on parle de... Non, mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.